D'ici, d'ailleurs, jusqu'à 21h, comme tous les vendredis soirs, des histoires de femmes et d'hommes, étrangers, immigrés, exilés, venus vivre en France. Des témoignages qui résonnent autrement avec l'actualité et qui nous éclairent sur certaines réalités de notre société. Ce soir, il sera question de Niodor, une petite île au large du Sénégal, d'une enfant illégitime dont personne ne voulait. Il sera question d'insoumission, d'affranchissement, d'une volonté acharnée d'apprendre et d'aller à l'école. Il sera question d'une jeune fille fleur bleue qui débarque à Strasbourg pour les beaux yeux d'un Français et qui découvre le racisme bête et méchant. Ce soir, il sera question de la femme la plus libre de la Terre.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier, sur France Inter.
Bonsoir Fatou Diome.
Bonsoir.
Fatou Diome, vous êtes écrivain, vous avez un sacré caractère, vous n'acceptez jamais de vous taire. Et c'est pour cela que j'ai tenu à vous recevoir dans cette émission. Je pense que votre parole est précieuse. Vous n'êtes pas une immigrée, vous n'êtes pas venue en France pour gagner votre vie, mais par amour. Vous êtes née au Sénégal, sur l'île de Niodor, dans un village de pêcheurs. Fatou Diome, est-ce que vous reconnaissez ces sons?
Alors là, ce sont des hommes, une équipe de pêcheurs.
C'est ça.
Ils s'encouragent mutuellement. C'est au moment où on retire les filets de l'eau. Et donc, il faut savoir que ces paroles qu'ils prononcent donnent parfois des chants gymniques. Donc là, ce sont des lébous qui parlent, des pêcheurs de la petite côte. Donc Mbour, Joal, Dakar, ce sont les lébous. Et moi, je fais partie donc du peuple Nyominka, les serrères des îles du Saloum. Et là-bas aussi, ils font des chants gymniques pour accompagner le travail.
Donc vous avez été accompagné par des chants comme ça dans votre enfance, puisque vous êtes né dans un village de pêcheurs.
Tout à fait. Et mon grand-père était pêcheur. Moi-même, je ne sais pas comment on dit pour les filles, mais j'allais à la pêche. Et même quand j'étais au lycée, quand je revenais, je partais encore en mer avec lui.
Et vous chantiez?
Oui, on chante. Et puis pour s'encourager, parce que même les chants de la vie de tous les jours inspirent. Vous savez, Senghor Dia, par exemple, qu'une grande partie de sa poésie lui a été inspirée par la métrique, la prosodie des chants gymniques serrères.
Dites-moi, comment était la vie à Niodor et dans votre village de pêcheurs? Est-ce que vous pouvez me planter le décor, me décrire votre village, la lumière, les odeurs?
Alors, je vais fermer les yeux déjà.
D'accord, je ferme.
Voilà. Alors, imaginez du sable blanc, tout fin.
D'accord.
Plein de cocotiers, quelques manguiers, puis un baobab avec ses branches rebelles.
Ouais.
Et au milieu, vous avez quelques concessions comme ça, très larges, parce que les maisons sont familiales, mais très grandes familles. Et donc, vous avez de petites maisons comme l'architecture des Antilles. Et voilà, et quand vous vous promenez à la plage, vous avez l'île des oiseaux qui n'est pas très loin, les palétuviers, et puis quelques pélicans absolument souverains qui trônent dessus. Et puis respirez la mer, et là vous allez très très bien.
Et vous étiez très très bien là-bas.
Exactement, c'est l'endroit où le petit cocon, vous savez, l'île, il y a cette circularité où l'océan limite tout, mais l'océan ouvre un chemin aussi vers tout. Voilà, ça attire.
Vous viviez avec vos grands-parents, je crois.
Mes adorables grands-parents.
Et votre grand-mère, comment elle s'appelait, votre grand-mère?
Ah, une vraie musique, Aminata.
Elle s'appelait Aminata. Et c'est votre héroïne, hein?
Ah oui, ça c'est mon héroïne, ma toute première héroïne, avec son sourire qui éclairait tous mes chemins. Je dis, à un moment donné, je lui dédie un livre et je lui dis que son sourire est le cap de tous mes départs.
Vous avez son sourire en tête tout le temps?
Oui,
tous les jours de votre vie.
Oui, parce que c'est une dame qui positivait la vie exactement comme son mari. Donc mon grand-père disait toujours, c'est la vie. Quoi qu'il se passe, c'est la vie. Et ma grand-mère, elle me disait toujours, si tu es triste, ben, dis-toi que demain, ça ne sera pas le même jour, donc il se passera autre chose.
Et votre grand-mère, cette grand-mère, c'est une femme extraordinaire parce que vous avez été abandonnée et elle vous a sauvé de l'abandon. Parce que vous étiez un enfant illégitime et c'est elle qui vous a recueilli.
Un enfant dit illégitime.
Ah.
Parce que dans mon état d'esprit à moi, tous les enfants qui débarquent sur cette planète sont tous légitimes.
Alors expliquez.
Voilà. Et donc, ce sont les adultes qui disent
bien sûr
illégitimes. Mais je pense que quand deux jeunes gens qui ont 18 ans, qui ne sont pas mariés, qui ne trompent personne, ne trahissent personne, et qui ont tout simplement la liberté de leur bel amour, si l'accident de bisou devient
un bébé,
l'erreur que je suis sur pattes, ouais, je me dis bravo l'amour et vive Cupidon. Je me sens donc parfaitement légitime, sauf dans la tête
des autres,
des obscurantistes.
C'est ça. Et dans le village, il y en avait pas mal. Votre grand-mère a été courageuse, non, de dire « moi, je prends cet enfant, quoi que vous pensiez ».
Oui, elle m'a récupérée, j'avais 3 mois. Donc parce qu'après, ma mère se mariait avec quelqu'un d'autre qui ne voulait pas de moi chez lui. Donc, ma grand-mère m'a récupérée, j'avais 3 mois. La frustration, c'était de savoir que cette dame que j'appelais Nkoto, grande sœur, habitait un quartier à côté, que c'est censé être ma mère. Mais je la voyais avec d'autres enfants plus tard, donc les 16 enfants. Et moi, je considérais ma grand-mère comme ma maman.
Bien sûr.
D'ailleurs, je l'ai appelée maman jusqu'à la fin de sa vie parce que ma bouche ne savait pas l'appeler autrement que maman. Et c'était ma maman. Et je l'appelle ma mamie-maman.
Donc votre mamie-maman, elle a tenu à vous donner une certaine éducation, je crois. C'est ça ? Elle voulait faire de vous... Elle voulait vous donner la possibilité de vous en sortir dans la vie toute seule.
Oui, elle et son mari. Il faut savoir que ma grand-mère m'apprenait à cuisiner, faire le linge, tenir la maison. Et mon grand-père m'apprenait à aller à la pêche, faire la pêche à la ligne, ou pêcher avec le carrelet, aller dans les champs de mille. Je montais même parfois sur des cocotiers quand j'étais plus jeune. Donc en grandissant, le corps changeant, là on m'a interdit, mais plus jeune, je le faisais comme les garçons. Et tous les deux me disaient, il faut que tu apprennes à tout faire par toi-même. Comme ça, on ne sait pas si on vivra jusqu'à tes 20 ans. Au moins, si un jour nous ne sommes plus là, ben, tu pourras continuer ta route tout seul.
Alors ça veut dire quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui vous donnait comme bille pour vous en sortir ?
Le travail. Donc je viens vraiment d'une éducation où le travail est au cœur de tout. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai eu mon certificat d'études primaires et l'entrée en 6e à Niodior, à l'époque, on n'avait ni collège ni lycée à Niodior. Il y avait juste l'école primaire.
Ouais.
Et moi, je voulais continuer mes études. Et ma grand-mère m'a dit, à la maison, ici, tu manques de rien. Donc, la maison est grande, le grenier est rempli, ton grand-père est un excellent pêcheur. Donc, tu ne seras pas affamé, tu ne manques pas de vêtements, tu manques de rien. Par contre, pour aller étudier ailleurs, dans une autre ville, il faut de l'argent liquide. Ça, on n'en a pas assez, on n'en a pas souvent. Donc, si tu veux continuer tes études, eh bien, il faut avoir le courage de tes choix. Tu travailles. Et donc, je suis partie travailler.
Alors ça, on va y revenir après. Parce que ce que je veux d'abord, c'est que vous nous expliquiez comment vous êtes incrustée dans l'école de votre village. L'école était en face de votre maison, c'est ça ?
Oui, alors c'est un clin d'œil peut-être des faits ou du destin ou comment on peut l'appeler, je ne sais pas. Il se trouve que l'école primaire chez moi est en face de la maison de mes grands-parents. C'est quand même incroyable, c'est fait
incroyable,
exprès.
Incroyable, ouais.
Et le jardin de ma grand-mère est derrière l'école primaire, un autre quartier derrière. Et je l'accompagnais dans ce jardin potager. Et j'aimais bien chanter les petites chansons que mes camarades ne cessaient de répéter à la fin des cours.
Oui, parce que vous les entendiez, c'est ça ?
Voilà, et je savais compter en français jusqu'à 100, alors que je n'étais pas encore à l'école, donc je voulais comprendre quand même ce que je répétais. Et j'étais curieuse, quand on est petit, on veut juste être comme les autres. Donc vous venez de parler de la naissance qui différencie.
Bien sûr.
Après, le fait de ne pas aller à l'école, ça marginalise encore plus. Parce que du coup, j'étais toujours avec ma grand-mère et les copines de son âge. Donc, je voulais quand même pouvoir être avec les copines de mon âge. Et c'était à l'école. Alors, j'allais à l'école. Je n'étais pas inscrite. Et je me mettais à la dernière table au fond.
Alors, moi, j'ai une image comme ça de vous, d'une petite fille comme ça qui se glisse dans la salle d'école. Vous savez que vous n'êtes pas inscrite, que vous n'avez pas le droit d'y aller. Vous asseyez au dernier rang.
Oui.
Et l'instinct vous chasse.
Oui, mais ce n'était pas triste. C'était comme un jeu. Parce que je venais, c'était espiègle. Je venais, je m'installais. Il me disait, Fatou Diom, tu viens toujours déranger le cours là. Tu n'es pas inscrite. Allez,
va-t'en.
Et je sortais. Et puis il revenait pour aller. À l'époque, il y avait les estrades pour les professeurs, les instituts. Dès qu'il allait au fond de la salle, donc sur l'estrade, je revenais. Alors, il revenait me renvoyer. Et ça a duré, c'était un petit manège.
Ça a duré des mois.
Oui, et à un moment donné, il a décidé de m'inscrire en bas de sa liste au crayon. Et il s'est mis à me faire faire
tous les exercices.
Oui, là, je le vois là. Les c'est exercices, oui, je revois le visage, ça me fait rire. Les exercices comme tous les autres enfants. Et à me faire répéter des choses au tableau comme tous les autres enfants. Et après, il a trouvé que je me débrouillais bien. Et un jour, il m'a attrapé pour m'amener chez ma grand-mère. Je dis, non, laisse-moi, elle ne sait pas que je viens encore ici.
Parce que vous mentiez. Oui, vous mentiez,
je me cachais.
À votre grand-mère, ouais.
Voilà, parce qu'elle m'avait dit, il ne faut plus perturber les cours, il ne faut pas y aller, sois obéissante. Et je me cachais quand même. Et là, il m'a dit, non, on va quand même lui dire. Et alors, il a dit à ma grand-mère, Madame Sarr, il faut l'inscrire, donnez-moi ses papiers. Têtu comme elle est capable de nous réussir un certificat d'études.
Et votre grand-mère a été encore extraordinaire, voilà. Alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a accepté de vous inscrire à l'école.
Oui, la rentrée suivante, j'étais officiellement inscrite, un peu en retard pour l'âge, mais j'étais quand même officiellement inscrite. Et le soir, elle mettait sa lampe tempête, elle me faisait répéter mes cours.
Et elle vous donnait des gifles quand vous vous trompiez.
Oui, quand je prononçais mal, elle me disait, tu ne connais pas ta leçon. Allez, relis, répète jusqu'à ce que tu puisses réciter. Et depuis ce temps-là, je mémorise.
Tout.
Même mes livres.
Et donc, votre grand-mère vous a ouvert un chemin dans les ténèbres de la tradition, ce sont vos mots. Et elle vous a aidé, à mon avis, à vous affranchir.
Oui.
D'ici d'ailleurs, c'est l'émission faite des histoires de nos parents, amis, étrangers, immigrés, exilés, venus vivre en France. Et ce soir, c'est avec vous, Fatou Diom, que nous allons passer 7 heures. Je vous regardais écouter Bach, vous chantez, vous dansez avec les mains. Pourquoi vous aimez tant Bach? Parce que c'est vous qui avez choisi cette musique. C'est une musique de votre enfance?
Oui, parce que quand on dit Bach, je suis sûre qu'il y a un deuxième mot dans la tête des gens, c'est Occident.
Bien sûr.
Alors que moi, quand je dis bac, il y a un deuxième mot, c'est cocotier.
Parce que vous, parce que vous écoutiez ça dans votre village.
Oui, parce que bac est venu insinuer toute sa beauté dans mon cœur d'enfant.
Ouais.
Parce que un jour, il y a un curé français. Sauf qu'à l'époque, dans ma tête d'enfant, je disais pas un curé français, c'était un monsieur avec une robe noire.
Ouais.
Qui était venu et devait aller chez le sous-préfet.
Ouais.
Je me souviens encore, il s'appelait Sambou Touré à l'époque. Ouais. Et le sous-préfet était parti dans la région du fleuve en vacances. Et à l'époque, on n'avait pas le téléphone dans nos îles. Et je rentrais de la pêche avec mon grand-père et on est passé devant. Il y avait un monsieur assis, la maison du sous-préfet à côté de chez mes grands-parents aussi. Et il était assis à côté de son sac. Et on a salué, on est passé. Et en fin de journée, je partais chercher mes moutons.
Ouais.
Et quand je revenais avec mes moutons des pâturages, donc il y avait tout son nom d'ailleurs, j'ai encore vu le monsieur avec la barbe blanche et la robe là-bas. Et je suis partie dire à mon grand-père, le monsieur, il est toujours tout seul là-bas et le soleil va se coucher. Hein. Et mon grand-père m'a dit, viens, on va le chercher. Et je dis, mais il me fait peur, parce qu'à l'époque, j'avais peur des blancs.
Ben oui.
Et il me dit, mais il ne te fera rien, c'est un monsieur gentil, regarde, il est assis, tout gentil, il est tout seul. Alors, il ne connaît peut-être personne, à part le sous-préfet, on va le chercher, parce que moi, je sais que le sous-préfet est parti en vacances dans sa famille, et c'est très loin. Et donc, on est parti chercher ce monsieur. Et il est venu chez nous, et mes grands-parents l'ont installé dans la chambre d'amis.
Ouais.
Et il est resté là presque un mois, jusqu'au retour du sous-préfet.
Et il écoutait Bach.
Et il avait une radio cassette. À l'époque, les radios avec les quatre piles.
Ouais.
Et tous les matins, quand ma grand-mère servait le petit déjeuner, ce monsieur, il avait cette musique. Et le rideau s'envolait comme ça. Et j'entendais cette musique. Quand je passais à côté, j'entendais. Et en fin d'après-midi, il mettait cette musique. Et parfois, il était sur sa chaise pliante avec mon grand-père sur l'autre chaise. Ils prenaient leur thé. Ils ne pouvaient pas parler parce que mon grand-père ne parlait pas français. Et ils se faisaient des petits sourires. Et puis, il y avait cette musique. Et moi, je m'asseyais là sous les cocotiers. J'écoutais ça. Et quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai entendu ça dans un magasin de musique et j'ai pris tout ce qu'il y avait qui concernait Bach.
Fatoudium, je demande à chacun de mes invités de venir avec un objet qui parle de leur enfance ou de leur pays d'enfance.
Mmh.
Vous êtes venu avec quoi ?
Alors, je suis venu avec des coquillages de chez moi. En serrer, on les appelle akoik. Il faut savoir que le serrer porte souvent la métaphore une présentia, c'est-à-dire on a l'image dans le son.
D'accord.
Akoik. Donc on entend le bruit là.
Ouais.
Et ce sont les gros coquillages là, c'était des colliers pour les dames. À l'époque où on n'avait pas les bijoux industriels et toutes les choses en toc, au moins ce sont des bijoux naturels que les femmes récoltaient chez nous dans les bras de mer à marée basse. Et ça prend un travail minutieux pour faire des petits trous, pour
ouais,
en faire des colliers.
Je vois comment c'est fait.
Voilà, et là dans la bouteille, j'ai du sable de Nyodior.
Alors ça, je peux regarder. Comment il est ce sable?
Parce qu'il est tout fin et blanc.
Il est tout fin, il n'est pas si blanc.
Et voilà, un peu beige comme ça.
Un peu beige.
Et les coquillages que vous avez, comme on mange beaucoup de coquillages chez nous, presque toutes les cours, on entasse les coquillages une fois consommés. Et ça finit par faire un magma. C'est pour immobiliser les dunes de sable qui bougent parce que c'est très soyeux.
Ça veut dire que là, dans votre pot de confiture Bonne Maman,
voilà,
vous avez fait votre dune à vous, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est mon petit Nyodior dans un bocal que je promène en Alsace.
D'ici, d'ailleurs, sur France Inter.
Fatoudium, vous êtes donc une petite fille qui s'est battue pour aller à l'école. Et comme vous aviez de bons résultats, vous avez commencé à nous le dire, votre instituteur vous a encouragé à continuer vos études. Et vous avez donc quitté vos grands-parents et votre village. Vous aviez 13 ans, je crois.
Oui. Hein.
Et à partir de là, vous êtes allée de famille d'accueil en famille d'accueil.
Mmh.
Et là, il a encore fallu se battre.
Et puis finir par les fuir.
Ouais.
Comme on n'avait pas le collège ou le lycée, il fallait quitter. Donc j'ai quitté. Il faut savoir, l'été où j'ai eu mon certificat, mon entrée en sixième, je l'ai passé en Gambie. J'ai fait petite bonne déjà, j'avais 12 ans et demi, quand j'ai gagné mon premier salaire.
Parce que vous aviez besoin d'aller travailler
parce qu'il fallait de l'argent pour payer l'inscription, pour acheter les livres, les stylos, tout ça.
Donc déjà à 12 ans, vous étiez bonne en Gambie.
Oui, mais ma grand-mère m'a dit « t'es trop jeune ». J'ai dit « mais je veux quand même y aller parce qu'il y a des pirogues de chez moi qui quittent Niodior, qui vont en Gambie. »
D'accord.
En même pas 3 heures, elles sont à la capitale gambienne.
Mmh.
Donc je suis partie dans cette capitale. Et on m'a engagée dans une famille où on m'envoie faire des petites courses, faire la vaisselle, cajoler le petit dernier, nettoyer la cuisine. Voilà. Après, les quelques billets récoltés pendant cet été-là, j'ai pu payer quelques paires de chaussures, un peu de vêtements pas très chers, hein, et puis l'inscription, et puis mes livres. Et ma grand-mère a trouvé une famille d'accueil où j'étais. La première année, donc le sixième, ensuite c'était trop dur.
Oui, c'est ça, c'était terrible à chaque fois.
Voilà, les familles d'accueil. Donc il faut savoir que par solidarité en Afrique, il y a beaucoup de familles qui hébergent généreusement d'autres enfants. Donc il y en a qui le font sans doute bien. Mais moi, je suis tombée sur des familles d'accueil parfois que j'ai dû fuir. Après, on m'a trouvé une autre famille d'accueil. À un moment, je me suis retrouvée, mon grand-père qui a eu pitié de moi, il m'a déplacée dans un village où il y avait un de ses cousins. Malheureusement, ce village-là, il fallait faire 7 km à pied.
Pour aller.
Pour Dombasis à Foundiougne, il fallait le faire à pied.
Et donc, pour aller à l'école.
Oui, pour aller à l'école. Et là, donc, je maigrissais à vue d'œil, c'était trop dur. Et mon grand-père a eu encore peur pour ma santé. Et on m'a encore changé de famille d'accueil. Et là, je suis allée à Sokone. Et j'habitais chez une dame qui vendait de la bouillie de mil. Donc, il fallait se lever à 5 heures du matin pour piler.
C'est ça. Parce que souvent, dans les familles d'accueil, vous avez travaillé comme bonne. Vous étiez la bonne à tout faire. Vous
oui.
étiez totalement exploitée. C'était
oui.
ça. Hein.
Mais la dernière dame, elle était adorable. C'est juste qu'elle était pauvre.
Ouais.
Et donc, elle travaillait dur. Donc, je travaillais dur avec elle. Le matin, je pouvais aller vendre un peu de bouillie de mil. Et puis, quand je quittais l'école, je passais au marché. Je récupérais la recette pour aller préparer le déjeuner. Et puis, l'après-midi, je retournais en cours. Et il faut savoir, pendant ce temps-là, les mercredis ou les samedis, dimanches, pour mon propre compte, je travaillais pour des gens qui m'ont payé,
oui.
pour mon argent de poche et mes petits besoins du quotidien. Puis après, à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, si tu peux faire la bête de somme chez les gens, et puis tu es toujours malheureux, tu ne manges pas ta faim, si tu dis deux mots, tu as deux paires de claques, eh bien, tu peux aussi aller travailler, te faire payer, louer ta chambre et te débrouiller tout seul comme une grande.
Et ça, vous avez décidé ça à quel âge ?
Quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans.
14 ans et demi, 15 ans, vous décidez
ouais.
de vous louer une chambre à vous
oui.
et de travailler pour la payer plutôt
oui,
que de faire le travail des autres. Et de...
Oui, puisque je travaillais déjà gratuitement comme une bête de somme.
Ouais.
Je peux déjà travailler pour moi, me faire payer et manger selon ce que j'ai. Et si je n'ai pas, tant pis. Mais au moins, je suis libre. Et mon grand-père, il a accepté, ma grand-mère aussi. Mais il faut savoir que ça n'allait pas de soi, parce que tout le monde venait leur dire, une adolescente en ville tout seule, ben ça va être une traînée.
Mmh.
Et ma grand-mère m'a convoquée avec mon grand-père, tu nous promets que tu vas rester sérieuse. Donc si tu nous rapportes un petit bâtard comme ta mère, on va mourir de honte.
Et vous avez été sérieuse.
Voilà, j'ai donné ma parole et j'ai respecté.
Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait d'apprendre ? Qu'est-ce que c'est que cette curiosité que vous avez, ce goût que vous avez d'apprendre, d'aller à l'école, parce que vous auriez pu abandonner plein de fois ? Tellement c'était dur, c'était un combat de continuer ses études à chaque fois.
Oui, mais mon instituteur, il était comme un père intellectuel. Mon instituteur, quand les gens ils m'insultaient ou me tapaient ou que j'étais malheureuse au village, par exemple, il me disait, tu travailles bien à l'école. Si tu continues à faire des efforts, tu vas pouvoir sortir de ce panier de crabes. Donc, j'ai compris que si je continuais à étudier, il y a quelque chose qui allait changer.
Ouais.
Et aussi, dans le vent de l'Atlantique, je dis que la langue française,
c'était
la langue des gens qui portent les pantalons, les jupes et qui travaillent dans les bureaux. Dans ma tête d'enfant, c'est comme ça que je voyais. Et il y a une journaliste sénégalaise qui parlait très bien, que j'admirais beaucoup, qui s'appelait Sorna Dieng. Et je la voyais à la télé. Et je voulais parler aussi bien qu'elle. Donc, je m'enregistrais, j'épuisais les piles de ma grand-mère parce que je voulais parler aussi bien qu'elle. Donc, j'enregistrais dans une radiocassette pour répéter. Et ça m'encourageait à apprendre plus, et plus j'apprenais, plus j'aimais lire, et plus j'aimais lire, plus j'aimais écrire.
Et ça a marché, donc, puisque vous avez eu votre bac, hein, c'est ça ? Puis vous êtes allée à l'université à Dakar.
Oui.
Toujours contrainte de travailler, de
oui.
faire des ménages.
Mmh.
Mais là, cette fois-ci, à Dakar, c'est en faisant des ménages que vous tombez sur les plus beaux yeux de France.
Ah oui, parce que vous avez, il y a eu une erreur tout à l'heure, vous avez dit pour les beaux yeux. En France, c'est pas les beaux yeux, c'était...
Les plus beaux yeux ou...
Les plus beaux yeux de France.
Les plus beaux yeux de France, vous tombez raide amoureuse d'un coopérateur. Non, ils étaient verts, bleus.
Non, c'est même pas la couleur.
Ah bon.
C'est juste qu'un jour, quelqu'un lève les yeux.
J'adore.
Non, c'est juste qu'un jour, quelqu'un lève les yeux sur vous. Et il y a une vague de douceur qui vous entoure. Et vous vous dites, je ne veux plus quitter ce regard-là.
Et donc, vous décidez de suivre ce regard-là.
Oui.
Et vous arrivez en France.
Voilà, jusque dans les vignes et les choucroutes d'Alsace.
Voilà, en 1994, très amoureuse.
Has cherry blossom by the river, flowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's all right. Come to me, stay with me, say you'll be a friend to me.
D'ailleurs, ça continue, on est toujours avec vous, Fatou Diome. Vous venez donc d'arriver à Strasbourg, vous êtes heureuse, vous vivez une vie de vraie midinette. Hein, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que votre prince charmant se transforme assez vite en crapaud. Vous divorcez et là, votre vie bascule d'un seul coup. C'en est fini de votre vie un peu facile. Et vous découvrez comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, la vie d'immigré, c'est
exactement,
ça
exactement, parce que quand je venais, je n'étais pas dans le contexte de l'immigration.
Non.
Parce que quand une femme rejoint son domicile conjugal, elle ne signe pas un contrat à durée déterminée.
Non.
Et donc, ça peut être un emploi précaire, mais ça, on le sait qu'après.
Ouais.
Donc, je suis venue faire ma vie avec quelqu'un. Et donc, je suis venue avec des papiers en règle, la porte grande ouverte, un domicile et tout allait bien. Et là, on se rend pas compte encore que quand on épouse un homme, et puis il faut aussi épouser sa mère. Et puis si sa mère n'aime pas les chocolats vivants, ben tout va mal.
Les chocolats vivants, c'est vous? C'est comme ça?
Ah ben oui,
c'est comme ça
moi,
que vous décrivez?
Quoi. Mais oui, ils attendaient Blanche-Neige et puis c'est pas moi.
Non, ils ont vu arriver un chocolat donc, vivant. Je connaissais pas celle-là.
Voilà,
mais...
ils ont vite compris que j'étais pas Blanche-Neige. Et moi aussi, j'ai vite compris ce que ça coûtait de ne pas être Blanche-Neige quand on voulait épouser ces magnifiques yeux-là.
C'est-à-dire que vous êtes tombée dans une famille très raciste.
Exactement. Donc, j'avais pris le meilleur, quoi, et ils ont réussi à lui pourrir la tête. Et alors, quand je me suis retrouvée toute seule, eh bien là, il fallait pouvoir rester logée, pouvoir se nourrir. J'avais pas ma famille, donc il fallait bosser comme un âne. Et je me suis dit, ah, tu l'as déjà fait, tu vas le refaire. Et bien, comme je ne trouvais pas un boulot, ben, les ménages.
C'est ça.
Encore.
Alors là, vous allez, encore les ménages. Vous allez un peu vite parce que vous n'avez pas pensé à rentrer au pays quand
non.
vous avez vu que votre mariage s'était foutu, quand vous êtes retrouvée toute seule. Vous n'avez pas pensé à rentrer au pays.
Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui prend la fuite?
Non, pas du tout.
Voilà. Donc, on m'a pris un homme. Le gars est parti, la ville est restée. Hein.
Mm-hmm.
Elle demande qu'à être occupée. Mais donc, il faut lutter pour la mériter, la ville. Après, il faut travailler, trouver sa petite place dignement.
Mais c'est ça que j'entends dans votre histoire, Fatoudium. C'est une vie de lutte, de lutte, de lutte, de lutte, de lutte. Vous avez lutté, vous avez pour aller à l'école, pour continuer vos études. Et puis là encore, vous vous retrouvez à lutter et à sacrément lutter parce que vous envoyez des centaines de CV pour trouver du travail.
Mmh.
Vous êtes diplômée, vous prépariez
oui.
votre agrégation de français.
Oui. Mmh.
Et rien, vous ne trouvez rien.
Rien.
Que des
Il y a une année où j'ai envoyé 150 CV. J'ai eu deux réponses.
Mmh.
Une négative et une qui me proposait 2 heures par semaine. Donc avec ça, vous payez votre appartement, vos études, vos habits, les bottes pour l'hiver. Ça, c'est une nécessité, mais absolument métaphysique pour une Africaine en Alsace. Les bottes en hiver, il faut les payer.
D'accord, il fallait donc payer les bottes, le loyer.
Voilà.
Et ça, vous l'avez raconté dans un de vos livres, votre expérience donc de ménage ou de babysitter. Hein.
Femme de ménage, babysitter, garder des personnes âgées malades.
Ouais.
Tout ce qui était honnête, qui demandait de la sueur et où ma couleur ne posait pas problème, j'étais partante.
C'est ça.
Il y a un préjugé favorable qui veut que les Noirs s'occupent bien des enfants. Pourtant, on a aussi des Noirs marâtres. Mais voilà, le préjugé favorable, c'est quand même raciste, hein, même si c'est favorable. Le préjugé favorable, c'était que j'étais prédisposée à bien m'occuper de la marmaille et faire des ménages.
Et là,
donc,
vous avez eu ça. Et là, dans un de vos livres, je ne sais plus lequel.
La préférence nationale.
La préférence nationale, parce que je les confonds. J'avoue que quand j'ai lu la préférence nationale, j'avais du mal à croire ce que vous écriviez. C'est-à-dire que ce que vous racontez, je pensais que ça n'existait plus.
Moi aussi, avant de l'avoir vécu, c'est ce que je pensais. Mais si je vous prêtais ma peau noire pendant 48 heures...
J'aimerais bien essayer.
Là, vous alliez comprendre à quoi vous échappez. Hein.
Et donc, ce qui vous est arrivé, c'est qu'en fait, on vous a parlé Yabon Banania.
Yeah.
C'est ça, hein
mm-hmm.
C'était ça ou alors les hommes voulaient vous mettre dans leur lit?
Oui, voilà. Donc, elle est noire, elle est pauvre, bon...
Elle va vite rentrer dans...
Ouais, on cherche le classeur quand elle nettoie le bureau, donc on fait semblant de frôler un peu. Et puis là, je me retourne, je dis, on peut en parler à votre femme, hein, si elle est d'accord, on y va. Elle n'a plus rien, comme ça, les gens vous respectent. Et il suffisait de faire le travail sérieusement. Et je précise que ce livre-là, c'est un pamphlet. Donc, pour l'état d'esprit d'un pamphlet, évidemment, ce n'est pas tout. Tous mes patrons ne sont pas là-dedans.
Non, vous avez pris les cas les plus caricaturaux.
Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens formidables que j'ai eus, que je remercie encore aujourd'hui. Parce que ce sont au moins des gens qui m'ont donné du travail, qui m'ont donné l'opportunité de gagner honnêtement ma vie et de financer mes études. Ces gens-là, ils ont contribué à mon parcours. Et je suis reconnaissante pour ça. Mais quand je rencontre des gens formidables, quand je fais leur éloge... Je revendique aussi le droit de démasquer les crétins.
Bien sûr.
Voilà.
Et vous l'avez bien fait hein, dans la préférence nationale.
Voilà.
Et alors, mais vous racontez des gens qui vous parlent, alors j'ai noté. Toi, il y a passé l'aspirateur. Toi, il y en a repassé.
Voilà. Parce que, tout simplement, je n'ai pas pu mettre une cassette. C'est pas parce que je ne pouvais pas mettre, c'est parce que je ne voulais pas mettre. Parce que c'était une dame, dès qu'on cassait quelque chose, elle le déduisait
du salaire.
Donc, à un moment, je dis, elle m'a déduit 500 francs pour un vase de terre cuite. Donc, quand sa petite vient pour me dire, allume-moi l'ordinateur ou le magnétoscope, moi,
je ne touche pas
parce que c'est encore plus cher. Donc. Et elle en déduit que je ne sais peut-être pas utiliser ça ou peut-être je n'ai jamais vu ça. Et donc, moi, je dis, quand vous êtes noir et vous balayez, vous poussez le balai, les gens pensent que vous êtes à peine plus intelligente que le balai puisque c'est vous qui le poussez.
C'est ça, et à chaque fois, vos employeurs ne pouvaient pas s'imaginer que vous aviez fait des études. Et donc, il y a plusieurs scènes cocasses comme ça que vous racontez, où vous croisez un de vos employeurs à la bibliothèque
universitaire.
Et qui vous appelait Cunégonde, d'ailleurs, hein,
pour oui,
pas vous appeler Fatou.
Oui, mais il pensait que je ne savais pas. Quand j'arrivais au travail le matin, prenait son café, mais sa dame exigeait vraiment que je commence le nettoyage par le salon. Mm-hmm. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'était son obsession à elle.
Ouais,
donc, et puis comme moi, je suis là pour obéir à madame, je le faisais. Et ça le dérangeait parce qu'il terminait son café. Et donc, pour instaurer une sorte de connivence avec sa femme, il disait toujours, dès que je sonnais, que je rentrais dans le couloir, « Ah, Cunégonde est arrivée !» Et il rigolait, puis après, il se levait, il partait. Et ça a duré pendant 2 ans, jusqu'à la 3e année.
Jusqu'à ce qu'il vous croise à la
bibliothèque universitaire. Donc, pour savoir que Cunégonde suivait quand même les leçons du docteur Pangloss, n'est-ce pas?
Et donc... là, vous êtes, du coup, vous avez perdu votre travail. C'est-à-dire
oui.
que si on découvrait que vous étiez une lettrée, que
oui.
vous étiez une oui. étudiante cultivée, alors là, c'était plus possible.
Oui, le soir même, la dame m'a appelée pour me dire c'était des chèques emploi-service, hein, donc on arrête quand on veut. Elle m'a appelé pour me dire que ces prochaines semaines, ils n'auraient plus besoin de moi.
Mais comme si ce n'était pas possible d'être noire.
Oui, mais ils ne vous licencient pas parce que vous êtes noire. Ils vous licencient parce qu'ils se rendent compte que vous étiez capable de décrypter toute leur bassesse.
Vous croyez que c'est pour ça?
C'est vraiment de l'orgueil humain. Mmh. C'est que quand ils parlent de Cunégonde, ils pensent que je ne connais pas. Après, quand le monsieur il se rend compte que vous êtes un DOA de littérature, comment voulez-vous qu'il réagisse? Vous avez tellement beaucoup plus lu Voltaire qu'il ne le fera jamais de toute sa vie. Et il se rend compte que quand il était Gouja, je m'en rendais compte. Et c'est ce regard-là que les gens ne supportent plus.
C'est ça.
Après.
Ouais.
C'est une fuite.
Rétrospectif.
Voilà, c'est une fuite.
Sur leurs propres agissements.
Voilà, ils se sentent jugés parce que compris.
Mais alors là, vous avez raconté dans La Préférence nationale le racisme bête et méchant, mais il y a un racisme plus sournois encore, un racisme latent, plein de bonnes intentions.
Oui, c'est les gens qui viennent vous offrir leur vieille robe.
Ça vous est arrivé, par
exemple? Oui, parce qu'ils pensent que quand vous êtes noire, vous êtes forcément une nécessiteuse, donc quand ils doivent vider les armoires, au lieu de mettre ça pendant la collecte des vêtements comme tout le monde,
ouais.
ben on vient, madame, vous en aurez peut-être besoin. Et ben pourquoi j'en aurais besoin? Que savez-vous de moi?
Ça vous est arrivé. Il y a une voisine un jour qui est venue comme
oui,
en vous disant, tenez, je vous apporte mes vieilles robes, ça vous servira.
Il y a la collecte des vêtements. En fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est plein de bons sentiments. C'est que quand on fait la collecte des vêtements chez nous, on reçoit des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Comme tout le monde, on met les paquets, on met sur le trottoir à telle date. Le camion les ramasse. La dame, elle considère qu'au lieu d'aller faire ça, de donner ça, ça va partir loin.
Elle va faire une bonne action.
Et voilà, elle va porter ça à sa petite noire de service. Et ça m'exaspère.
Alors qu'est-ce que vous lui avez, par exemple, ce jour-là, qu'est-ce que vous avez répondu?
Et je dis, mais pourquoi vous me les donnez? Ah, mais c'est parce que c'est pour la collecte des vêtements. Et je dis, mais qui vous a dit que j'en ai besoin? Et je dis, je sais que votre geste, il est beau, il est généreux. Mais la base de votre geste, c'est raciste. C'est un préjugé très négatif. Comme je suis noire, je dois avoir besoin de vos haillons. Alors que moi-même, j'ai fait mon tri sélectif pour mettre devant le trottoir pour le camion qui va les ramener.
Ça veut dire que si on est noire, on est pauvre.
Oui,
c'est ça.
Et puis l'argent ne donne pas le goût. Qui lui a dit que je veux me attiffer comme elle? J'ai peut-être mes zébrures à moi, mais ce sont mes zébrures à moi.
Votre léopard à vous.
Mais oui. Donc voilà. Et ça, c'est une manière de vouloir bien faire. Ce sont des gens qui ne sont pas sortis du complexe colonial. Et ces gens-là, ils aiment les noirs avec les ailes brisées. Vous savez, les pleurnichards, jérémiades, qui vont ramper ou lécher les bottes pour avoir les choses. Ce n'est pas ma mentalité. Moi, je veux respecter les gens. Je ne veux pas qu'ils me donnent un reste de pain. Je veux qu'ils m'aident à gagner dignement mon pain pour ne pas avoir besoin de leur pain.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noires pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier sur France Inter.
Bon, Fatou Diome, vous avez chanté. C'est votre chanson, hein?
Ah, mais alors, là... Un grand merci à Pierre Perret, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Lily à travers le monde qui écoutent sa chanson comme la BO de leur vie.
C'est ça pour vous?
Ah ben moi, quand je l'entends, oui, je me dis c'est un peu moi et beaucoup d'autres comme moi. Parce qu'il y en a qui ont vécu ce que j'ai vécu et peut-être qui ont eu moins de chance que moi. Et c'est ça qui me rend plus triste. Moi, ça va encore. Mais il y a d'autres Lily qui aujourd'hui encore serrent les dents.
Alors que vous, là, vous serrez moins les dents?
Moi, je serre les dents, mais pour moi, dans la vie, c'est...
On serre les dents.
C'est presque normal, j'ai grandi avec.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Comment serait la vie sans serrer les dents?
Oh, on n'écouterait pas que tous les soirs, et puis on dormirait avec Imagine de John Lennon. Et tous les matins, il y aurait un autre monde avec une grande... avec une belle-mère pas aussi stupide que la mienne. Ça, c'est une dédicace.
Ça, c'est une dédicace. Voilà. Fatou Diome, chaque soir, je demande à mes invités de choisir et de commenter un événement de l'actualité lié à l'immigration. Et vous, vous avez voulu entendre le discours de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. C'est un discours qu'il a fait le 29 avril 2015 à Strasbourg.
À vrai dire, moi, j'en ai assez des poèmes. Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang. Aber nicht Betroffenheitslyrik und Rhetorik auf Dauer. Il faut agir et nous proposons le 13 mai un système de relocalisation à travers toute l'Union européenne. La solidarité doit être partagée. Et nous devons en toute urgence nous occuper des questions gravitant autour de la notion de migration légale. Si nous n'ouvrons pas ne fût-ce qu'à moitié, la porte d'entrée, il ne faut pas faire le surpris lorsque des malheureux de la planète entière entrent par effraction par la fenêtre. Il faut ouvrir les portes pour éviter qu'on entre par les fenêtres. On ne peut pas dire nous ne pouvons pas accepter toute la misère du monde, pour citer un de vos collègues, ancien Premier ministre socialiste français, et dire en même temps qu'il ne faut pas s'occuper de migration légale. La migration légale fait partie de la solution à moyen terme et donc il faut agir sur ce point.
Pourquoi vous avez fait ce choix, Oudiam?
D'abord, avant de le commenter, je souligne juste la citation est malhonnête. Michel Rocard dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part. » Donc, c'était pas complet, il l'arrête là. Quand un homme politique dit « Nous devons agir », pour moi, c'est presque un pléonasme. Parce que son existence même en tant qu'homme politique devrait avoir pour raison, justement, l'action. Parce que les citoyens leur confient le pouvoir. C'est pour pouvoir action. Donc il faut pouvoir transformer la volonté en action, la révolte en action. Donc nous prendre des micros comme ça et faire des minutes de silence, mais ces minutes de silence-là ne rendront aucun fils à sa mère. Hein. Voilà. Après, il dit qu'il en a assez des poètes.
Alors ça, pourquoi il dit ça? Expliquez-moi.
Je ne sais pas, mais...
Comment vous l'avez compris? Comment vous l'entendez?
J'ai pensé à tous mes collègues écrivains. J'ai pensé aux peintres, aux musiciens, à tous les artistes du monde. C'est quoi notre boulot, en fait, en tant qu'artiste? Moi, je n'ai aucune espèce de pouvoir. Je ne détiens pas un stylo pour signer des décrets. Je ne peux pas donner un ordre et demander l'exécution fissa. Il me reste quoi en tant qu'artiste?
Écrire.
Je suis là pour gâcher le sommeil des puissants quand ce qu'ils font ne correspond pas à l'humanité que je désire. Je suis là pour agiter les utopies des Lumières. Parce que partout où il y aura des ténèbres, il faut bien que quelqu'un allume une torche. Donc je suis là pour dégoûter M. Juncker, encore plus des poètes qui, oui, vont s'émouvoir. Parce que si on ne peut plus s'émouvoir, ça devient le règne de l'indifférence. Donc les poètes sont là pour chaque fois lui dire « Nous ne sommes pas satisfaits et nous sommes fondés à rêver d'un autre monde possible. » Et donc lui, il peut en avoir assez de poètes. Mais les poètes n'en auront jamais assez de lui répéter que les solutions dont il parle, l'hypocrisie ne peut pas toujours ignorer les accords de partenariat Europe-Afrique. Les accords de partenariat Europe-Afrique, si c'est l'Europe seule qui tire les ficelles, qui fixe les règles, qui fixe le prix des matières premières. Vous allez à la boutique, vous allez payer le prix qu'on vous demande. Ce n'est pas vous qui le fixez, chère Zoé.
Je sais.
Donc, tant que l'Afrique ne sera pas déjà maîtresse de ses propres biens, il ne faut pas venir nous dire qu'on va trouver des solutions. Il n'y en aura pas. Tant qu'il y aura des gamelles vides en Afrique, on viendra chercher les assiettes pleines en Europe. C'est naturel. C'est humain. Donc, il faut que les partenariat Europe-Afrique cesse d'être un contrat léonin. Donc tant que l'Europe discutera en fonction de ses seuls intérêts, il faudra juste qu'elle comprenne que la satisfaction de ses intérêts, si ça continue à léser les autres, mais ceux qui sont lésés chercheront la survie par tous les moyens. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vienne mourir dans l'Atlantique. Mais je peux comprendre des raisons qui poussent des gens à le faire.
Et c'est pour ça que vous dites « on sera riche ensemble ou on se noiera ensemble ».
Oui.
C'est une de vos phrases.
Oui, d'ailleurs, ils me l'ont corrigé. Je ne l'ai pas dite comme ça. La rythmique musicale à l'oreille n'est pas bonne.
Non, dites-moi.
Cette version, elle est là juste avec le futur. Mais je ne l'ai pas voulu. Hein. J'ai dit
« Dites-moi.
On sera riche ensemble ou on va se noyer ensemble ».
Fatou Diom, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Le temps est passé un peu vite, trop vite même. Mais est-ce que vous avez de la rancœur envers la France? Ça, c'est une question que je me posais.
Oh, j'en aurai jamais. Vous savez, je suis un peu bornée. Moi, je suis fidèle à mes histoires d'amour.
Ah, il revient. Il revient par la porte.
Mais oui, ce pays, je suis venue par amour. Et là, je suis restée par amour parce que je ne suis pas maso. Je peux aller vivre aujourd'hui dans n'importe quel pays de mon choix. Si je reste en France, c'est parce que ce pays-là, je l'aime. Je ne suis pas une immigrée complexée. Hein.
Non.
Je suis une citoyenne libre et je vis ici en vertu de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Qui est?
C'est-à-dire que tout être humain a le droit de circuler librement, de choisir sa résidence dans un État. à l'intérieur d'un État. Et tout être humain a le droit de partir, y compris de son propre pays, et aussi de revenir. Je circule donc librement entre mes deux amours, l'Afrique et l'Europe.
Et c'est entre la France et le Sénégal, vos amours? C'est ces deux amours-là, la France et le Sénégal?
C'est même mentalement un pays uni pour moi.
La France et le Sénégal?
Oui,
moi. C'est votre pays?
Oui.
Ah, c'est vachement bien, c'est devenu un seul pays?
Oui, dans ma tête, parce que quand j'écris, c'est l'Africaine que je suis qui s'exprime en français. Et Nyo Dior peut être à côté de Strasbourg sur la même page. Mon Europe et mon Afrique ne se battent pas en duel.
Non.
Et je veux qu'elles s'entendent.
Et ça me plaît bien l'idée d'avoir Strasbourg et Nyo Dior
sur la même page.
Sur la même page, sur la même carte tout près, et que c'est là que vous habitez, c'est là que vous êtes.
Oui, et regardez mon pot de terre de Nyo Dior.
Oui, avec
dans ma
dunes.
Cuisine à Strasbourg.
Ouais.
Donc voilà, c'est ce pays-là, je l'aime pour des valeurs. J'ai maintenant la nationalité française. Je suis franco-sénégalaise. Quand on m'invite à l'étranger, je demande toujours qu'on l'indique. Parce que philosophiquement, politiquement, ça représente des choses pour moi.
Qu'est-ce que ça veut dire franco-sénégalaise?
Pour moi, franco-sénégalaise, ça veut dire
que vous êtes française.
Que j'ai autant de culture africaine, sénégalaise que je revendique. Et j'ai aussi tout ce que j'ai pu apprendre en France. Je suis formée à l'université de Strasbourg. Et c'est une manière pour moi de dire que moi, Fatou, je suis hors du complexe colonial. J'appartiens à la génération d'après. Je ne cultive pas des rencontres inutiles, des rancœurs inutiles. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut être juste les uns envers les autres aujourd'hui pour faire une paix durable ensemble et partager toutes nos richesses culturelles, tout cet amour, toutes ces valeurs. Parce que des siècles de rencontres, ça ne laisse pas seulement des blessures. Ça laisse aussi une manière de penser, une manière de s'entendre, une manière d'être ensemble. Vous voyez, quand je corrige, par exemple, cette phrase.
Vous avez raison.
Mon amour de la langue française me demande ça. La version « on se noiera tous ensemble » est plus juste. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'au lieu de dire « on va aller », on ne va pas mettre le verbe « aller » deux fois. Donc la version la plus juste, c'est « on se noiera ». Mais c'est moche à l'oreille. Je m'accorde une licence poétique et je dis « on sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. » Et la mélodie, tan-tan-tan-tan-tan.
Alors vous êtes une poète, Fatou Diome. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. C'est passé trop vite, encore une fois.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain à 20h. Après le journal, vous retrouverez comme d'habitude André Manoukian.